7h42 en temps universel. Et tout de suite, le journal des sports avec vous, Antoine Grenier. À Abidjan, le football ivoirien présente ses nouvelles têtes.
Le nouveau directeur technique national, Lounès Attab, le nouveau sélectionneur de l'équipe U20, Younes Zerdouk, et surtout le nouveau sélectionneur de l'équipe féminine, Reynald Pedros, ancien international français, qui succède à Clémentine Touré, dont le contrat n'a pas été renouvelé. Pedros, 53 ans, passé sur les bancs de l'Olympique Lyonnais féminin et l'équipe féminine du Maroc. Fort de ses expériences, il arrive en Côte d'Ivoire pour relancer un foot féminin ivoirien à la peine depuis plusieurs années, Youen Gourlet.
Reynald Pedros, ancien joueur notamment du FC Nantes, de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France, arrive avec un gros CV et beaucoup d'attentes. Double vainqueur de la Ligue des Champions et double champion de France avec les joueuses de l'Olympique Lyonnais en 2018 et 2019, finaliste de la CAN avec la sélection marocaine en 2022, le technicien français compte bien s'inspirer de son expérience passée avec la sélection ivoirienne.
Je savais très bien que c'est un travail qui allait ressembler à ce qu'on avait fait au Maroc, parce que chez les féminines, il y a souvent beaucoup de travail dans les fédérations. Et ça prouve aussi que ce qu'on a fait avec le Maroc, eh ben, ça a été regardé, ça a été apprécié. L'objectif, c'est que le foot féminin redevienne important et redevienne parmi les meilleures nations africaines.
Reynald Pedros aura la lourde tâche de relever une sélection et un football féminin ivoirien en crise. Depuis quelques années, les éléphants n'y arrivent plus.
Sur les 3-4 dernières CAN, ils ne se sont pas qualifiés, ils n'ont pas été au JO, ils n'ont pas fait de Coupe du Monde. Donc voilà, ça prouve que le chantier est important. Mais la fédération et la sélection, ça doit être une bouffée d'oxygène pour ces joueuses. Il n'y a rien de plus haut et plus fort que la sélection et ça doit le redevenir.
Reynald Pedros arrive avec de nombreuses missions, superviser les équipes de jeunes, redresser la sélection et la qualifier dans un premier temps pour la CAN 2026, puis la Coupe du Monde 2027. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Reynald Pedros qui a quelques mois pour se préparer. Les éliminatoires de la CAN féminine débutent en octobre.
Football encore et les affichages des barrages du CHAN 2025. Les affiches des barrages du CHAN 2025. Ont été officialisés, ça fait deux fois que je fais cette erreur, Antoine. Ouais,
décidément, hein.
Ouais.
Vous y tenez à celle-là.
Celle-là, oui.
Allez, trois matchs pour ces barrages. Dans la première partie de tableau, les Comores affrontent le Malawi, tandis que l'Afrique du Sud défiera l'Égypte. Les vainqueurs des confrontations s'affronteront au second tour pour une place au CHAN. Le Gabon, lui, défiera la Gambie avec, en cas de qualification, un duel contre l'Algérie. Tirage a priori abordable, selon Anissé Yala, le sélectionneur des Panthères locales.
Je pense que nous avons la possibilité, effectivement, de ne pas galvauder nos chances d'accéder, ne serait-ce que pour le second tour. La Gambie, nous la respectons, nous ne disons pas que c'est fait. Tout au contraire, c'est une équipe qui saura se défendre forcément, mais le tirage n'est pas forcément en notre défaveur, du moins sur son premier tour. Donc le Gabon garde ses chances. Après, le reste, c'est que il faut que l'on soit mis dans les conditions. J'entends par là la prise en compte de la programmation qui devra être respectée parce que c'est fait en fonction justement des objectifs qui sont fixés, mais aussi du temps qui nous est imparti.
Anissé Yala avec Fritz Koum. Les matchs allés de ce premier tour de barrage du CHAN se disputeront fin février. Match retour une semaine plus tard.
Et puis en Europe, Youssef En-Nesyri décisif en barrage de la Ligue Europa.
Le buteur marocain parachève le succès du Fenerbahçe face à Anderlecht. Succès 3-0 du Fener, plutôt tranquille donc avant le match retour. Dans les autres rencontres, l'Ajax Amsterdam de Bertrand Traoré s'impose 2-0 sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise. En revanche, pas de vainqueur dans l'affiche de ces barrages avec le nul 1 partout entre le FC Porto et l'AS Rome de l'Ivoire. Rien, Evan Dika.
Antoine Grenier, merci beaucoup.
RFI Matin.
C'est une épidémie qui fait rage au Soudan, en proie à un conflit armé, une épidémie qui s'est propagée au Soudan du Sud voisin, alors que plus d'un million de personnes fuyant la guerre ont franchi la frontière. C'est dans la zone frontalière que le choléra est d'abord apparu, avant de se propager sur près de l'ensemble du territoire sud-soudanais, avec le retour des rapatriés dans leur région d'origine. À ce jour, 26 811 cas de choléra ont été répertoriés au Soudan du Sud. 455 personnes en sont mortes. Et RFI vous propose jusqu'à dimanche une série en trois volets sur la lutte dans le pays contre cette infection dangereuse. À Djouba, Florence Mieto.
Vêtus de combinaisons intégrales, les employés en charge de la désinfection pulvérisent de l'eau chlorée sur les semelles des visiteurs, sur le sol et sur les lits. Nous sommes à Gouré, dans la banlieue ouest de Djouba, où l'épidémie de choléra n'est pas encore terminée. Jusqu'à 8 patients sont admis quotidiennement dans cette unité de traitement du choléra gérée par l'ONG Médecins Sans Frontières, une grande tente blanche d'une capacité de 10 lits. L'infirmier Gouta Epulo constate le manque d'accès à l'eau propre dans cette partie de la capitale sud-soudanaise.
Le choléra est une maladie causée par une bactérie. Elle se propage par l'eau ou les aliments contaminés, généralement à cause du manque d'hygiène et d'assainissement. Une fois que vous avez le choléra, vous commencez à vomir beaucoup et à avoir une diarrhée aqueuse continue. C'est dangereux car vous perdez beaucoup de liquide corporel et pouvez mourir en quelques heures.
Hawati Adjong, 27 ans, et son mari Saber Juma, 33 ans, se désinfectent les mains avant de rentrer chez eux. Hawati est tombée malade la première, a été soignée, puis c'est son mari qui a développé les symptômes.
C'était le matin. Mon mari allait partir au travail. Il est allé aux toilettes 3 ou 4 fois, et puis il a commencé à vomir, et ensuite il ne pouvait plus bouger. C'est lui qui m'avait accompagnée ici quand j'étais malade. Il s'est occupé de moi. J'ai su tout de suite qu'il avait attrapé le choléra à son tour. J'ai donc appelé à l'aide et on l'a amené. Ici hier.
Pour elle, la cause est évidente.
Nous buvons le plus souvent l'eau d'un puits creusé dans la terre. Je pense que c'est ça qui nous a rendus malades.
À l'intérieur de la tente, Daniel Kenny, un garçon de 4 ans, reçoit une perfusion de réhydratation. Arrivé très mal en point, en à peine une heure, il est à nouveau capable de se tenir assis au grand soulagement de sa mère, Seredjin Akeji, qui veille sur lui, son bébé de 8 mois dans les bras.
Je m'inquiète pour mes autres enfants. Tout ça, c'est à cause de notre environnement qui est sale. Il faut faire très attention pour bien nettoyer la vaisselle, la laver après l'avoir touchée, la sécher et la couvrir pour éviter que les mouches ne se posent dessus.
Le personnel médical souligne l'importance d'une prise en charge rapide du choléra. Car si les 270 patients soignés ici par MSF ont survécu, 9 personnes sont mortes de la maladie chez elles dans les quartiers avoisinants ces dernières semaines. En cause, des traitements inadéquats et trop tardifs. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Le premier volet de notre série consacrée à la lutte du Soudan du Sud contre le choléra à retrouver sur RFI.fr.
RFI à Djouba, 90.4 FM. Abidjan, 97.6 FM.
Et dans Afrique Économie, ce matin, l'essor en Côte d'Ivoire des églises évangéliques sur les réseaux sociaux, chaîne WhatsApp, vidéo TikTok, captation de prêches sur YouTube ou encore live sur Facebook. Les pasteurs se sont emparés de ces outils pendant la pandémie de Covid pour lever des fonds et toucher une plus large audience au-delà de leur lieu de culte. À Abidjan, Benoît Almeras.
Bonjour à tout le monde, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous.
5h moins le quart, temps universel, comme chaque matin depuis 6 ans, Martial Akembo réveille des centaines de fidèles en direct sur Facebook. Bible et smartphone à la main, le pasteur chante des louanges.
Il a le feu, il a le feu.
Il sollicite des dons.
Selon que vous voulez apporter votre offrande, nous vous laissons le contact, vous nous appelez.
L'église de Martial Akembo gagnerait 1000 euros par mois grâce aux offrandes en ligne. Des transferts devenus monnaie courante pour les églises sur les réseaux sociaux. Mais pour le pasteur, c'est l'audience internationale qui importe.
En partageant, les gens envoient forcément à des parents, des amis. Donc, dès que je lance sur ma plateforme que j'ai prière tel jour, à tel endroit, il n'y a plus de place. Les gens viennent vraiment de partout, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie.
Avec 120 000 abonnés sur Facebook, Martial Akembo est en poids moyen comparé au révérend Camille Makosso et ses 5 millions de suiveurs en cumulé. L'influenceur évangélique ivoirien fait partie de ceux qui ont fait fructifier leur audience en ligne pour bâtir leurs églises, selon le sociologue spécialiste des religions, Sosten Touré.
C'est grâce à l'influence sur les réseaux sociaux de ces leaders religieux-là qu'ils ont réussi à lever des fonds, voilà, et avoir aussi des personnes mécènes qui ont pu venir en aide à la construction de ces édifices.
Mais l'utilisation des offrandes par les influenceurs évangéliques demande de la transparence pour le docteur Robert Dion, président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire.
Beaucoup d'églises, surtout les jeunes églises qui évoluent, ils préfèrent utiliser les réseaux sociaux parce que c'est plus facile. Pour attirer l'argent, attirer les gens à donner. Et souvent, on met en avant, tu vas être guéri, tu vas voyager. Avec l'euphorie, les gens donnent. Moi, à mon homme niveau, je peux appeler ça l'escroquerie.
Ce pasteur prône une bonne gestion financière des églises et pour mieux encadrer le secteur, un recensement des cultes est en cours dans plusieurs régions ivoiriennes. À Abidjan, il y en aurait au moins 7400, dont 2/3 d'églises évangéliques. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Afrique Économie, bientôt 8 heures en temps universel. Et on se quitte en musique, comme chaque matin.
Amamae,
Et dans notre choix musical, on continue de découvrir les 10 finalistes du prix Découverte RFI. Le lauréat ou la lauréate sera révélé mardi prochain, le 18 février. Bonjour Edmond Sadaka.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Aujourd'hui, place aux derniers finalistes. Je rappelle que nous les découvrons par ordre alphabétique, hein, pas de favoritisme. Et le dernier qu'on découvre ce matin est béninois.
Exactement, il va d'abord, comme tous ses autres camarades, se présenter lui-même. Écoutez-le.
Hello RFI, je suis Yahweh Yeton, artiste, auteur, compositeur, chanteur, producteur béninois. J'ai bientôt 36 ans. La musique, c'est mon meilleur moyen d'expression. Je partage ma vision du monde, je partage mes émotions. Et j'adore la scène parce que ça me procure un bonheur fou. C'est sur la scène que l'être en moi se déploie. La musique m'a guéri contre des maux et je sais que la musique peut guérir le monde.
Edmond, ce titre qu'on entend s'appelle Veivé.
Oui, Veivé, c'est un titre qui parle de la nécessité de reprendre confiance en soi. C'est une chanson autobiographique, m'a expliqué cet artiste, qui m'a expliqué également avoir vécu des périodes difficiles dans sa carrière.
Yewe Yeton chante en fond, c'est une langue vernaculaire employée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.
Oui, Bénin, Nigeria, Togo aussi. Il utilise souvent des proverbes et des métaphores pour dénoncer certains travers de notre époque. Alors je vous propose de découvrir un autre titre de l'album qui va sortir dans quelques semaines. Ça s'appelle Awe.
Ya cho nu bi glow ajiji me wa te ko nu bi nyondo pe ko nu do we ba fi bi ronse nu we gun nu egun ki agba de tu e mali bi duo mala ba pe bi duo se me ba fi de bokla de do do gle do ko ba de ji bo do ga cha do se lo so u yin no wa nu to ke na do po do nu yon nu ewu ba ti ke o please up ma le na je we ji do nu ye wa ko we o no fi lo so u yin no wa nu to ke na do po do nu yon nu ewu.
Yewe Yeton a donc 36 ans, ce n'est pas un nouveau venu dans le métier de la musique.
Il a découvert le rap très jeune, en 2004, il a fondé un duo dénommé Diflex qui a obtenu plusieurs récompenses au Bénin, comme par exemple le prix du meilleur album rap. Ensuite, il a fait partie du collectif BIM, initial de Bénin International Musical. C'est un groupe avec lequel il a fait deux albums et des concerts un petit peu partout dans le monde.
Et sa carrière solo n'a démarré que l'an dernier.
Oui, déjà deux EP à son actif et un album attendu le 14 mars, dans quelques jours. Un disque qui mélangera les rythmes traditionnels du Bénin avec des sonorités pop ou rock. Et c'est la chanson Loco qui donnera son titre à cet opus. Loco swa che twen non tu ya che bete we pedo to da te ji ro vo de u bonze we ya we nu nu do bu si flu bu do wi ze we fi bi za we ke ze de do za me we de de gbe no we do ya we ke clan wa yi na wa ji je lo gbe me nu le fe wu bo stro ba wa flo vi vi grand vivi lo gbe me mi se bo a vi bu nu ki ku wa ji je fun bla me bi ku lo gbe me lo gbe me nu lo gbe me ya o gbe gbe din fo si sa bla me bi ku si gbe me fo ma sa fo e ma info ko jo ko to do ga nu nu vivi lo gbe me mi si te bo du we che a ko gbe ma nyo ko nu me vo non de Flop vivi dim bullet you are cutting no video belle no to go no malo lo ede e te male malo lo e pede nuele no domi te mi mi ketto vuote da ime filili wa mi kwe
nuele no domi te Yahweh Yéton, finaliste du prix Découverte RFI 2025. Je rappelle que toutes les infos sur ce candidat et sur tous les autres sont à retrouver sur notre site RFI.fr ou directement en tapant prix Découverte avec un S.com. C'est là aussi que vous pouvez voter pour votre candidat préféré jusqu'à dimanche. Merci Edmond Sadaka.
Merci Julien.
Et on se quitte avec un dernier titre de Yahweh Yéton. Ça s'appelle Todé. Yéton, finaliste du prix Découverte RFI 2025 pour refermer cette édition des RFI Matin. Merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation de ces 3 heures. On se retrouve demain et l'info continue. Le journal dans moins de 2 minutes et tout de suite, bonjour Juan Gomez.
Bonjour Julien Coquelrouet, bonjour à tous.
Un aperçu du programme d'appel sur l'actualité.
Eh bien nous allons commencer évidemment dans 10 minutes avec les questions des auditeurs et les réponses de la rédaction. Ce matin on nous interpelle sur les conséquences du gel de l'aide internationale américaine. Des questions également sur l'ancien président Nicolas Sarkozy, cela fait maintenant 8 jours qu'il porte un bracelet électronique. Et puis d'autres questions, notamment sur la présence de l'armée israélienne dans le sud du Liban. Julien, bonne journée, à demain.
Bonne journée, Juan.
Dès 5h TU.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans notre émission Questions de femmes, nous parlons de l'hygiène intime. Conseils, méthodes, produits à éviter. Un gynécologue à votre écoute.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Pour le 14 février, fête de la Saint-Valentin et des amoureux, je vous propose une émission spéciale autour d'un beau livre qui met en lumière les artistes, peintres et écrivains qui ont été inspirés par l'amour, ses joies et ses malheurs. Un ouvrage intitulé tout simplement « Je t'aime ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.